Et bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez Radio Campus et l'émission Quad 9 Doc, émission des jeunes chercheurs de Clermont-Ferrand. Pour une fois, on n'a pas trop de retard, tout se passe bien. Autour de moi, mon équipe de fidèles chroniqueurs, donc ce soir, évidemment, vous retrouverez Arnaud Persaud. Salut Arnaud.
Bonsoir à tous.
Tu vas bien ?
Impeccable.
Très bien, et donc tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Je vais vous parler de l'effet de papillon.
De l'effet papillon, voilà. Pour peut-être un peu annoncer le printemps qui arrive.
Voilà, en soi d'avril, c'est impeccable.
Les papillons sont là. Et ensuite, donc, nous avons Jules Barthélémy, doctorant en droit public. Bonsoir Jules.
Bonsoir à tous.
Dans ta chronique Europolis, tu abordes chaque mois le système politique d'un pays européen. Et quel pays aborderas-tu ce soir ?
On va essayer de trouver de la vie en Grèce.
On va essayer de trouver de la vie en Grèce, c'est dur ça.
C'est
t'as l'air pessimiste quand même.
Hein. Oh, tu verras.
Bon. Et ensuite, nous passerons aux 8 minutes avec en invité ce soir Rafik Karfaoui pour un 8 minutes un peu particulier puisque nous ne parlerons pas de ton sujet de thèse. Salut Rafik.
Bonsoir à tous.
Alors si on ne va pas parler de ton sujet de thèse, on va parler de quoi alors ?
Ah, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. On va parler de l'Algérie et du coup de l'actualité qui se déroule aujourd'hui en Algérie, donc le pays... dont je suis originaire, donc je suis algérien. Voilà.
D'accord, très bien, donc on verra ça ensemble. Et enfin, nous retrouverons l'agendoc d'avril présenté par Quentin Rodriguez, doctorant en philosophie des sciences, qui opère aussi à la technique. Hein, maintenant, c'est bon, il est paré pour la technique. Salut Quentin.
Bonsoir à tous.
Est-ce que tu vas bien ?
Oui, ça va, ça va.
Très bien. Et donc, avant toutes les chroniques dont nous avons parlé, évidemment, en premier, c'est toi, Arnaud. Vas-y.
L'intégrale de f x, c'est égal à l'intégrale.
Vertige. Mathématiques.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme tu nous l'as suggéré, Olivier, effectivement, ce début de printemps, les fleurs commencent à montrer timidement le bout de leur nez, la nature s'éveille doucement et on peut voir les premiers insectes, les premiers oiseaux et les premiers papillons. Alors, quand un mathématicien entend parler de papillons, il pense bien sûr à l'effet papillon. Alors, cette expression, passée dans le langage courant, qui stipule qu'un battement d'ailes de papillon à un endroit de la Terre pourrait être responsable d'un cyclone à l'autre bout. Okay. Alors bien évidemment, le papillon qui entraîne...
Ne te laisse pas distraire.
Pas de problème, problème technique un peu. Oui, donc je disais, alors bien évidemment, un papillon qui entraîne un cyclone, c'est un peu exagéré, mais derrière cette image se cache une réalité mathématique. Alors, c'est au météorologue Edward Lawrence que l'on doit cette expression imagée. C'est lui qui a fait sortir l'effet papillon de son cocon. Dans les années 70, il... tenter de prédire la météo à partir d'équations déterministes, c'est-à-dire d'équations dont la connaissance du présent détermine le futur de façon unique. Il partait donc de données telles que la vitesse du vent, la température, tout ce qu'on peut mesurer qui a un rapport avec le climat, et ces données étaient mesurées avec 6 chiffres après la virgule, soit au millionième. Alors il travaillait à l'époque sur des tout premiers ordinateurs et les soumettait à des algorithmes dans l'espoir de développer un modèle donc de prédiction de météo. Il effectuait toujours ce travail deux fois, par mesure de vérification. Un jour, il fut saisi par une irrésistible envie de café, donc tous les buveurs de café sauront bien de quoi il s'agit. Il gagna alors du temps, lors de sa deuxième opération, en entrant les chiffres au millième, c'est-à-dire trois chiffres après la virgule, au lieu de six. Et laissa l'ordinateur calculer pendant qu'il allait justement se préparer son breuvage. Donc à son retour, il constata que les résultats, entre la première fois et la deuxième fois, étaient fondamentalement différents. Alors, bon, c'est-à-dire qu'arrondir les données au millième plutôt qu'au millionième avait une influence considérable sur ses prédictions. Après avoir vérifié à plusieurs reprises, il en vint à énoncer le principe fondateur de sa théorie, à savoir que dans certains systèmes, une infime variation des conditions initiales conduit à des variations énormes quant au résultat final, mieux connu sous le nom d'effet papillon. Alors voilà, le vol du papillon change de façon infime les conditions initiales, comme la vitesse du vent. Sur une période de temps assez courte, l'effet du vol de papillon est négligeable. Mais il n'est pas exclu que sur une longue période, on observe des effets très importants. C'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que la connaissance imparfaite du présent, comme c'est souvent le cas, rend la détermination du futur illusoire. Autrement dit, Lawrence nous dit qu'il est impossible de prédire la météo sur une longue période, car pour faire cela, il faudrait obtenir des mesures très précises et donc prendre en compte énormément de paramètres ou d'événements complexes comme le battement d'ailes des papillons. Et il est vrai que si aujourd'hui on regarde la météo, c'est très difficile d'avoir une fiabilité sur plus de 15 jours. Et c'est en fait pour cette raison. Pour les plus curieux, donc, cette théorie mathématique est aujourd'hui connue sous le nom de la théorie du chaos. On peut par exemple regarder l'ouvrage d'Étienne Gis à ce sujet, qui porte le nom très original, Effet papillon.
Il est accessible pour tout le monde, même les
non-mathématiciens. Oui, c'est un ouvrage de vulgarisation, c'est pour ça que je le cite.
Voilà. Très bien.
Voilà. Étienne Gis, c'est un vulgarisateur, donc normalement ça devrait aller. Alors voilà, donc seulement voilà, cette expression, aujourd'hui largement utilisée, est passée dans le langage courant et souvent utilisée de façon erronée. Oui, l'effet papillon bat de l'aile. J'aimerais citer par exemple une des maximes de Benjamin Franklin, qui est bien connue. Vous allez dire ce que vous en pensez. Donc, à cause du clou, le fer fut perdu. À cause du fer, le cheval fut perdu. À cause du cheval, le cavalier fut perdu. À cause du cavalier, le message fut perdu. À cause du message, la bataille fut perdue. À cause de la bataille, la guerre fut perdue. À cause de la guerre, la liberté fut perdue. Tout cela pour un simple clou. Donc faisons-nous une erreur en rapprochant cette réflexion de l'effet papillon. En fait, oui, mais pourquoi ? Alors, dans le cas de l'effet papillon, la variation forte est due à une modification très faible en valeur relative d'une variable mathématique, qui pourrait être ici le clou. Dans le cas de l'histoire, l'imprévisibilité, là, est due au fait qu'on ne sait pas du tout la mettre en équation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas construire un lien clair entre le clou et la victoire. En fait, le clou n'aurait pas été perdu, il se peut que la bataille fût perdue quand même. Et ce, pour toute autre raison. Il n'est donc même pas possible d'affirmer que les différences donnant intuitivement l'impression d'être significatives, comme le clou d'un fer à cheval, auraient pu changer l'histoire. Un autre exemple est aussi celui d'une publicité sur l'effet papillon. Peut-être vous avez vu ce spot dans lequel il est question de recyclage. Donc si on présente Monsieur Papillon, qu'on dirait tout droit sorti d'un décor d'un film de Tim Burton, et qui porte un papillon rouge. Alors, il convainc ses voisins de recycler ses emballages parce que 7700 boîtes de petits pois permettent de construire une automobile, etc., etc. Et on affirme donc que le fait que chacun convainc ses voisins de se mettre au recyclage aura de grandes conséquences sur la planète. Et nous dit-on, cela est l'effet papillon. Alors, je suis évidemment pour le recyclage, surtout si cela permet de sauver la planète et les papillons.
Et de construire des automobiles.
Et de... oui, oui, bon,
c'est pour ça, sauver la planète. Non, ouais. Non, ça marche pas bien.
Effectivement, c'est discutable. Mais bon, je suis désolé, là, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de l'effet papillon, mais plutôt d'un effet exponentiel. Si je convainc mes deux voisins que eux-mêmes convainquent chacun deux de leurs voisins, etc., on passe de un individu qui recycle à deux, mes voisins, puis à quatre, les voisins des voisins, puis à huit, etc., etc. Et ça, c'est un effet d'accumulation, un effet exponentiel, et ce n'est pas ce que l'on a décrit en première partie, c'est-à-dire dans l'effet papillon. Alors voilà, à force de tout recycler, ben, l'effet papillon a lui-même été recyclé. Et ce qu'il faut retenir, je dirais, de ce phénomène, ce n'est pas petite cause, grande conséquence, comme on l'entend souvent, mais plutôt que la connaissance imparfaite du présent, pour telle ou telle raison, peut rendre la détermination du futur illusoire. Voilà. Donc je vous remercie... Pour m'avoir écouté, et je vous laisse avec la chanson donc Effet papillon de Benabar, sur laquelle j'espère vous porterez un regard critique.
Si le battement d'ailes d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine, tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papilles,
un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas.
Et vous venez d'entendre Effet papillon, donc interprété par Benabar. Des effets papillons, peut-être qu'il en existe parfois, voire souvent, en politique, je ne sais pas, et notamment peut-être en Grèce, non ? C'est Jules Barthélémy qui va nous en parler dès maintenant.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Europolis.
Bonjour tout le monde. Alors, les élections européennes approchent, je sens que vous trépignez tous d'impatience. Et notre tour d'Europe va connaître ses derniers numéros. C'est pourquoi nous fonçons vers le sud de l'Europe pour prendre des nouvelles de la République hellénique, la Grèce, nom de Zeus. Après tout, c'est de là que viennent, les mots Europe et un certain nombre de prénoms, comme Jules par exemple. Par où commencer ? Sans doute par le début, mais nous n'avons pas 3 heures devant nous. La Grèce se situe sur un territoire particulièrement riche d'histoire et sa période antique soulève l'admiration et l'intérêt de nombreuses personnes. Aujourd'hui, on louera tantôt la force spartiate avec des cris d'énergumène, tantôt on fantasmera la démocratie athénienne qui est plutôt une oligarchie qu'autre chose. Ne soyez pas médusés, mais nous allons nous arrêter là, car l'Antiquité n'est pas l'alpha et l'oméga de l'histoire grecque. Depuis, les Grecs ont traversé plusieurs périodes de domination étrangère, macédonienne, romaine, byzantine, ottomane, avant la fondation de l'État hellénique, appelé Première République, et à la révolution des années 20, 1820, et la victoire sur l'occupant ottoman, aidé par la France, le Royaume-Uni et la Russie, trois monarchies qui, du coup, ont imposé un monarque bavarois en mettant fin ainsi à la République. Le Royaume de Grèce existera de 1832 à 1924 avant d'être renversé par les Républicains et qui imposeront la Seconde République jusqu'au 3 novembre 1935 et une nouvelle restauration de la monarchie par plébiscite assez contestée puisque 95% de personnes ont voté oui. Ensuite, l'invasion de l'Allemagne mettra fin à la monarchie, qui sera encore une fois restaurée en 1946, ce qui débouchera sur une guerre civile qui sera perdue par les forces communistes. Mais la tragédie grecque connaîtra un nouvel acte lorsque les libéraux remportent les élections en 1967 et cherchent à purger l'armée d'un état-major réactionnaire. En réponse, les colonels imposeront une dictature violente et des dirigeants absolument compétents qui pousseront ce petit pays à un endettement dont il ne s'est absolument jamais remis. Voilà qui nous mène à 1974. Les militaires vont démontrer l'ampleur de leurs compétences par la débâcle de Chypre. Tiens, un autre pays membre de l'Union européenne, d'ailleurs. Autrefois, sous protectorat anglais, elle était sous domination grecque avant l'invasion par la Turquie du nord de l'île. Depuis, la partie sud s'est formée en une république indépendante, la République de Chypre. Mais l'occupation turque est toujours un des points principaux de tension en Europe. Et le refus de la Turquie de retirer ses troupes rend impossible son adhésion, par exemple, à l'Union européenne. Mais revenons à nos brebis. La faillite militaire des colonels précipitera la naissance de l'actuelle République hellénique, la troisième, confirmée le 8 décembre 1974 par référendum. La Constitution entrera en vigueur donc en 1975. Il s'agit d'un régime parlementaire monocaméral avec un seul parlement, la Voulie, la Chambre des Grecs. 250 députés sont élus dans 56 circonscriptions législatives au scrutin proportionnel. On l'a déjà vu, ça favorise la représentation des partis majoritaires dans les zones les moins peuplées. Mais ce n'est pas tout, puisque la liste arrivée en tête obtient 50 députés bonus, un sixième de la Chambre tout de même. Voilà une nouvelle démocratie qui naît de la chute d'un régime militaire, sauf que la Grèce paie et paie très cher ce passé essentiellement subi. En effet, s'il serait un peu présomptueux de reprocher aux Macédoniens et aux Romains l'état actuel de la Grèce, les Ottomans, eux, ont joué un rôle important puisqu'ils ont concrètement colonisé la Grèce pendant 4 siècles en imposant une hiérarchie entre les hommes qui plaçaient les Grecs en dessous des Turcs. Le pouvoir d'Istanbul a ainsi cultivé une haine entre ces deux peuples qui a été revivifiée par la période Erdogan. Et si l'on rajoute la crise de Chypre qui n'est toujours pas réglée, on comprend que la Grèce considère toujours comme inacceptable l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais au-delà du cas de la Turquie, les expériences monarchiques sous le règne d'une dynastie bavaroise et l'occupation nazie ont de deux manières différentes généré un lien particulier entre la Grèce et l'Allemagne. Le style et la pensée grecque antique furent particulièrement appréciés chez les Allemands. À l'inverse, les Grecs ont connu des monarques originaires de Bavière. Sauf que l'Allemagne fut longtemps l'allié privilégié des Ottomans, puis des Turcs. Alors si l'on rajoute une occupation nazie humiliante et coûteuse par la suite, on comprend que le rapport à l'Allemagne est en ce moment plutôt mauvais, tandis que la Grèce fut longtemps la destination favorite des Allemands. Enfin, l'endettement issu de l'époque des colonels est aujourd'hui payé par l'ensemble des Grecs avec une austérité et un appauvrissement général suite à la crise des dettes souveraines de 2008. Donc voilà un cas particulier, un État postcolonial au sein de l'Union européenne, un État qui a beaucoup subi et qui paye les conséquences de ce qu'il a subi par le passé, sans que les puissances qui en ont abusé ne prennent leur part de responsabilité. Bien au contraire, lorsque la crise de la dette grecque démarrera, les priorités iront vers les investisseurs. Il faut dire que nombre de particuliers allemands et de banques françaises et allemandes étaient créanciers. Alors sauver le plus faible, non, on a plutôt sauvé le propriétaire. Une petite hécatombe et ça repart. Sauf que pas vraiment, depuis l'État est sous domination de la fameuse Troïka, de représentant de la Commission européenne, du FMI, de la Banque mondiale, qui explique au gouvernement quel sacrifice est nécessaire, un peu comme le roi Minos qui demandait que lui soient livrés des jeunes gens de Grèce pour les mettre dans son labyrinthe. Vous connaissez l'histoire, enfin j'espère. Bref, ça ne va plus très loin depuis 2008. Pourtant, la vie politique bouge, mais rien ne semble pouvoir permettre à ce peuple de prendre son destin en main. Les prochaines élections législatives se dérouleront également cette année. Le parti majoritaire en Grèce s'appelle Syriza, considéré comme radicalement social au départ. Ce parti a porté un temps les espoirs de la gauche anti-austéritaire européenne. Mais les Grecs ne sont pas les plus forts et le pouvoir démocratiquement élu a dû faire profil bas face à la Troïka qui est là parce qu'elle est là. Syriza a attiré à l'époque les déçus de l'ancien PASOK, les sociaux-démocrates. Ce PASOK s'est reformé dans le KINAL, le mouvement pour le changement. On trouve également à gauche les très modérés de Potamie, La Rivière, pro-européens et particulièrement sociaux-libéraux. Ensuite, le Parti communiste grec, comment dire ? Il s'agit d'un parti communiste à l'ancienne. En gros, ce sont de gros staliniens pour qui même Syriza et d'ailleurs l'ensemble...
Attention à ce que tu dis. Car...
Attendez, j'ai pas fini. Pour eux, pour eux, l'ensemble de la gauche radicale européenne qui siège dans le groupe de gauche radicale européenne, c'est-à-dire en fait l'ensemble des partis de gauche radicale d'Europe, ne sont pas assez à gauche, d'où le fait qu'ils ne siègent plus avec personne en fait depuis 2014. Enfin, à gauche, on trouve un nouveau petit parti, le Mera 25, fondé par l'ancien ministre des Finances, issu de Syriza, Yanis Varoufakis. À droite, on retrouve la Nouvelle Démocratie, le grand parti de droite classique, libéral-conservateur, favori pour les prochaines élections. Alors plus petit, siègent aussi les Grecs indépendants de l'ANEL, une droite traditionnaliste et militariste, mais qui est alliée à Syriza parce qu'elle est anti-austérité. Et ensuite, une union de centristes qui forme un autre petit parti, plus libéral et moins conservateur. Enfin, évoquer la Grèce, c'est malheureusement évoquer aussi Aube Dorée. N'y allons pas par quatre chemins, on a beaucoup parlé de fascisme dans ces chroniques, mais il s'agit là concrètement de nazis, le désespoir de nationaux-socialistes. Le désespoir depuis 11 ans du peuple grec a attiré des vautours que l'on croyait disparus. Les nations ont cru pouvoir humilier et faire sombrer dans la misère un temps l'Allemagne sans en subir les conséquences à la fin de la Première Guerre mondiale. Afin d'éviter que ce qui s'est passé ne se reproduise, la Grèce avait d'ailleurs accepté de renoncer à la dette que lui devait l'Allemagne. Mais les États européens d'aujourd'hui ont priorisé les investisseurs et même l'Allemagne n'a pas retenu les leçons de sa propre histoire. Les démons reviennent en force, mais les Grecs n'abondent pas dans ce parti. Malgré la crise, les valeurs résistent. La participation baisse, certes, mais Aube Dorée réalise toujours des scores faibles. Il y a de la vie en Grèce, malgré tout ce que subit ce peuple. Il résiste à la tentation dans laquelle d'autres qui souffrent moins tombent avec la plus grande des facilités pour peu qu'ils voient arriver le moindre réfugié qui n'a d'autre choix que de fuir. Car oui, le peuple grec fait aussi preuve d'une particulière solidarité avec ces mêmes réfugiés pendant que des ministres fascistes, comme en France ou en Italie, hurlent à la fin du monde et ne font absolument rien sinon de laisser des gens se noyer. La vie économique de ce pays est en lambeaux, mais il y a toujours des gens, une vie politique démocratique et des citoyens et des citoyennes qui sont particulièrement clairs quant à leurs valeurs malgré la difficulté. Plutôt que du mépris, nos amis grecs devraient nous inspirer du respect.
Βαριές κουρτίνες θέλω μόνη μου να μείνω. Πάνε τώρα τόσοι μήνες που και το θυμό μου πνίγω. Δεν θα σου ξαναμιλήσω, το τηλέφωνο σου σβήνω. Μα θα σου πω μόνο κάτι, μα θα σου πω μόνο κάτι. Δεν σου χρωστάω ούτε συγγνώμη ούτε αγάπη. Δεν είμαι πια όπως παλιά ο άνθρωπός σου. Μέχρι και σένα νίκησε ο εγωισμός σου. Δεν περισσεύει ούτε γέλιο ούτε δάκρυ. Μονάχα κάτι πράγματα σου σε ένα νακρύ. Ούτε γιατί ούτε μπορεί δεν σου χρωστάω. Και ας τρελαίνομαι ακόμα. Κλείνω τις βαριές κουρτίνες, κάτι μέσα μου αλλάζει. Πάνε τώρα τόσοι μήνες που μονάχα σκοτεινιάζει. Στον καθρέφτη μου βλέπω κάποια που μου μοιάζει. Μα θα σου πω μόνο κάτι, μα θα σου πω μόνο κάτι. Δεν σου χρωστάω ούτε συγγνώμη ούτε αγάπη. Δεν είμαι πια όπως παλιά ο άνθρωπός σου. Μέχρι και σένα νίκησε ο εγωισμός σου. Δεν περισσεύει ούτε γέλιο ούτε δάκρυ. Μονάχα κάτι πράγμα σου σε μια νακρή. Ούτε γιατί ούτε μπορεί δεν σου χρωστάω. Και ας τρελαίνομαι ακόμα κι ας πόναω. Δεν είμαι πια όπως παλιά ο άνθρωπός σου. Μέχρι και σένα νίκησε ο εγωισμός σου. Δεν περισσεύει ούτε.
Et vous venez d'entendre Densou Krostao Agapi, j'espère que je le prononce bien, interprété par Eleni Fourera. Dansu Crostao Agapi, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Jules, toi qui as choisi la chanson?
Je l'ai su. Mais
vraiment,
c'est une histoire d'amour. Hein,
c'est pas compliqué. Alors, d'après Google Translate, hein, bon, s'il se trompe pas, ça veut dire tout simplement je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, qui est aussi un message qui a été en quelque sorte adressé à Bouteflika récemment par les Algériens.
quelle transition!
J'excelle de plus en plus au fil de l'année en transition. Et donc, ben, nous en parlons dès maintenant avec le 8 minutes avec. Donc pour les auditrices, les auditeurs qui viennent d'arriver à notre émission et qui n'ont pas écouté le début, je vous rappelle que donc aujourd'hui, exceptionnellement, on fait un 8 minutes avec un peu particulier pour parler de la situation algérienne. Et donc pour cela, nous avons invité un doctorant, Rafi Karfaoui. Donc rebonsoir, Rafi.
Rebonsoir, vous disiez.
Donc tu es doctorant en géographie à l'UMR Territoire. Est-ce que d'abord, avant de parler de l'Algérie, tu peux nous rappeler rapidement, alors je dis rappeler parce que tu avais déjà été invité pour parler de ta thèse il y a un an et demi à peu près, donc nous rappeler tes thématiques de recherche.
Donc pour le rappel, donc, je travaille sur l'accueil des personnes en situation de demande d'asile dans les espaces non métropolitains, c'est-à-dire les espaces ruraux, les villes petites et moyennes, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je m'intéresse à l'action des acteurs locaux pour tout ce qui est accueil des personnes en situation de demande d'asile et comment cet accueil-là il peut avoir un impact sur les territoires non métropolitains d'un point de vue social et spatial, et puis surtout l'action des acteurs suite à la politique de dispersion des exilés, hein, de manière générale, les demandeurs d'asile et puis les autres aussi qui ne sont pas dans cette catégorie administrative, j'allais dire, vers d'autres territoires, parce que les gens, ils n'ont pas forcément choisi d'être à Amber ou ailleurs, mais ils ont été contraints par l'État, ce qui nous amène à dire que les politiques migratoires aussi sont un facteur de déplacement forcé et pas seulement les conditions climatiques et les guerres, voilà.
Effectivement. Et donc, tu es géographe. Donc, effectivement, là, ton sujet de thèse est a priori assez quand même éloigné de la situation algérienne. Mais le géographe peut parler de tout, a priori. Ça s'applique sur n'importe quelle thématique. Et donc, c'est justement ce qui va être intéressant de voir ce soir, c'est en quoi un géographe peut avoir un regard particulier sur la situation politique d'un pays en crise, donc l'Algérie actuellement. Alors peut-être au début, pour revenir rapidement sur quelle est la situation finalement aujourd'hui en Algérie au niveau politique. Et quel est l'avenir, a priori, de cette situation? Est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
Oui, donc pour contextualiser rapidement, il y a un changement radical, profond, qui s'est opéré récemment, donc suite à 20 ans de présidence de l'Algérie par Abdelaziz Bouteflika, qui, au fait, est au pouvoir depuis 1962, vu qu'il a été très jeune ministre des Sports, ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Boumédiène. Il a été écarté du pouvoir en 1978-19 suite au décès de Boumédiène, parce que la guerre des clans au sein de l'ex-parti unique, le FN, a fait que Bouteflika a été écarté du pouvoir et il a fait ce qu'il appelle, lui, la traversée du désert durant 20 ans. Il est revenu au pouvoir suite à un appel. Bien évidemment, c'était à l'époque beaucoup plus les militaires qui dirigeaient l'Algérie. Bon, en 1999, il a repris le pays. Et il y a eu 4 mandats. Bien évidemment, en 2013, il a été très affaibli suite à un accident vasculaire cérébral, suite auquel il a été soigné à Paris. Ça a été très mal perçu par les Algériens parce qu'ils considéraient que c'était quand même, depuis 15 ans, de pouvoir. Je pense que c'était déjà le temps de construire au moins un hôpital dans lequel le président
c'est en quelque sorte un aveu de
tout à fait d'échec.
D'échec
au moins par rapport à la politique sanitaire en Algérie, entre autres. Et donc en 2019, donc c'était prévu qu'il y ait des élections présidentielles en avril. D'ici quelques jours, mais bon, ça n'aura pas lieu, vu que Bouteflika avait annoncé en février sa candidature pour un cinquième mandat, qui a été massivement rejeté par les Algériens, qui sont sortis par millions dans les rues, partout, à Alger, mais aussi dans toutes les villes du pays, les grandes villes, mais aussi les petites villes, les villages, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre du pays, et donc pour dire non à un cinquième mandat, avec un président, il faut le rappeler, qui ne s'est pas adressé publiquement aux Algériens depuis sa fameuse conférence de presse à Sétif en mai 2012. Conférence de presse durant laquelle il avait d'ailleurs appelé à ce que sa génération se retire du pouvoir. Donc, sauf que 7 ans plus tard, il était toujours là et donc les Algériens ont dit non. Et ils ont réussi en l'espace de quelques semaines à l'écarter, à obtenir sa démission. Suite à un mouvement pacifique qui a été reconnu par le monde entier comme étant un mouvement exceptionnellement pacifique et a pu obtenir vraiment la revendication principale, pas la seule, hein, il faut le rappeler, mais principale, le départ de Bouteflika.
D'accord. Et du coup, donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a vu tout récemment, donc il y a Ben Salah, c'est ça, qui est maintenant, qui prend le pouvoir de manière... comment on dit ça, temporaire, oui, voilà, transition, le temps que se fassent de nouvelles élections, c'est ça la situation.
Exactement, au fait, c'est la loi algérienne qui prévoit que, suite à la démission du président de la République, que ce soit donc l'équivalent du Sénat en France, donc en Algérie, ça s'appelle le Conseil de la Nation, reprennent donc se charge de la transition politique durant 45 jours et organiser des élections sous 90 jours, donc sous 3 mois. Et donc, c'est le président, en effet, du Sénat, donc Abdelkader Ben Salah, qui a repris donc, la transition. Et donc, bien évidemment, il est aussi. Par contre, il faut le rappeler, rejeté massivement par la population, tout simplement parce que, en réalité, la revendication, c'est le départ du système. Alors, quand on dit système, c'est pas forcément que des acteurs. Le système, c'est aussi tout ce qui est mis en place depuis peut-être des décennies, une manière de faire la politique, une manière de voir aussi, de percevoir la politique en Algérie, l'économie. Bien évidemment, donc, ce qu'il demande aujourd'hui, c'est le départ de l'actuel président du Sénat, mais pas que, aussi le départ du président du Conseil constitutionnel, etc. Et donc, il y a beaucoup de demandes qui sont faites sur beaucoup plus de transparence en politique, beaucoup plus de responsabilité. Mais en réalité, si on regarde bien les demandes sont nombreuses et multiples. Elles traduisent une situation politique profonde en Algérie, mais en réalité, là, je perçois un petit peu la demande principale comme étant une interrogation, peut-être pour les Algériens, mais pour le monde entier. Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui? Comment réinventer la démocratie, le mode de gouvernance et des choses pour faire un petit peu un écho à mes camarades.
La chronique de Jules,
voilà, chronique de Jules, en effet, avec la situation en Europe aujourd'hui, etc. Parce que la situation de l'Algérie, ce qui a conduit aussi à ce qu'il y ait des manifestations en régime du pouvoir, c'est aussi un contexte. Donc je ne sais pas si on va en parler, mais en tout cas,
tu peux en parler si tu veux.
Je vais m'autoriser à le faire. donc la situation économique en Algérie, qui a été pendant longtemps dans une situation critique, parce que aussi suite à ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Algérie après les révolutions arabes de 2011 n'était pas dans le mouvement, tout simplement parce que les Algériens ont fait une première révolution en 1988, en réalité octobre 88, qui a été durement réprimée et suivie par ce qu'on appelle la décennie noire, une décennie meurtrière et décennie durant laquelle l'économie algérienne a été en effet Déstructuré, notamment par des mesures du FMI, encore une fois, un maître qui a agi pour appeler, bien évidemment, solution, on ne peut pas trouver mieux. Il faut fermer les entreprises publiques, voilà, il faut mettre...
C'est souvent la même chose.
Ouais, oui, souvent, voilà.
Et puis voilà, souvent, comme la Grèce, ça ne marche pas, quoi.
Oh, tout à fait,
ça n'empêche pas de recommencer la même chose.
Ça finira bien par marcher une fois.
Et donc, c'est quand même
dingue, vrai, mais...
Et donc, on s'est retrouvé dans une situation critique, un surendettement, hein, aussi, comme la Grèce. Aujourd'hui, la situation est différente, il n'y a plus d'endettement, l'Algérie est quand même n'est plus endettée grâce aussi à l'augmentation des prix du pétrole à un certain moment, parce qu'il faut rappeler que l'économie algérienne est, c'est pas majoritairement, mais elle est totalement dépendante des prix des hydrocarbures. Il y a quelques années, les prix des hydrocarbures, suite à des querelles, bien évidemment, entre Russes, Saoudiens, Américains, etc., pour faire un petit peu de géopolitique internationale, les prix se sont effondrés, bien évidemment l'Iran, mais enfin, je ne vais pas en parler. Les prix se sont effondrés et donc l'Algérie, son économie qui est dépendante du pétrole, des hydrocarbures, enfin, du gaz, etc., elle s'est retrouvée avec des recettes divisées par deux. Sauf que la production ne suivait pas. Donc il y avait une dépendance à l'importation des produits de consommation, nécessité, etc. Et donc ça aussi, ça explique le rejet des Algériens, le chômage aussi qui est important. Bon, on peut avancer des chiffres qui sont autour de 13%, 14%, mais ils peuvent être différents. Selon si on est un homme, une femme, si on est diplômé ou si on n'a pas accès beaucoup à la formation. Donc voilà, ça aussi, c'est des situations qui peuvent expliquer.
Mais c'est vrai que économiquement parlant, de toute façon, c'est pas une économie qui est viable, une économie qui repose uniquement sur la manne d'hydrocarbures. Ce n'est pas viable et moindre petit pépin, on va dire, politique, on l'a vu au Venezuela, ça peut poser de graves problèmes parce qu'on voit que derrière, il n'y a aucune structure solide économique qui existe. Donc voilà, donc ça c'était pour rebondir sur l'aspect économique. Et du coup, pour en venir à ton domaine, parce que là on a parlé un peu de l'aspect historique, politique aussi, économique, mais et donc au niveau de l'œil du géographe, qu'est-ce qui peut apporter justement dans l'analyse de cette situation?
Je pense que les géographes, ils s'intéressent à l'aspect spatial, de toute façon. Donc, toutes ces thématiques dont on a parlé, l'économie, la politique, on peut parler de la culture, etc. Et bien évidemment, quand on les spatialise et qu'on voit aussi les inégalités spatiales qui peuvent exister entre les territoires en Algérie, et je pense que ça mérite un regard un peu plus approfondi des chercheurs algériens dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus, mais qui méritent d'être regardés aussi de ce côté-là, peut-être pas avec beaucoup plus de partenariats, mais en tout cas, si on regarde les inégalités qui peuvent exister dans les territoires, entre les territoires en Algérie, ce sont des inégalités qui peuvent être profondes entre la capitale Alger, où il y a évidemment une concentration, mais ça c'est hérité aussi de l'époque coloniale, donc on a tout concentré au fait à Alger, mais aussi au nord, parce que c'est là où la majorité des colons autrefois vivaient, et donc bien évidemment, on est resté aussi dans ce schéma-là, aussi de développement territorial, et en réalité on se retrouve avec des situations critiques où dans certaines zones on a un peu plus de difficultés à accéder aux soins, où on doit faire plusieurs kilomètres pour trouver l'hôpital, mais pas forcément que ça, il y a aussi la qualité aussi des services, donc des équipements. Ça aussi, c'est une forte demande des Algériens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde le modèle en Algérie, c'est aussi un modèle, le modèle social est encore présent. Et les Algériens y sont fortement attachés, c'est-à-dire l'accès au logement social beaucoup plus facilement, la redistribution, bon, qui n'est pas encore bien évidemment bien établie. Mais c'est une question qui est très présente, une demande qui est très présente, qui quitte difficilement aujourd'hui qu'on peut conjuguer beaucoup plus difficilement dans un modèle mondialisé qui a tendance à se libéraliser, où on a des groupes privés en Algérie, bien évidemment, qui se sont beaucoup enrichis, notamment grâce au maître de FMI, on est d'accord, parce qu'on a libéralisé l'économie, mais bon, ça a servi à rien. Mais ça a créé aussi des inégalités. Je pense que ces inégalités-là, l'accès aussi aux transports en commun, parce que pour avoir un véhicule, il faut dépenser quand même une somme importante d'argent. Ce n'est pas tous les Algériens qui peuvent avoir un véhicule, surtout aujourd'hui, quand ils ont arrêté l'importation. Et donc ça aussi, ça permet d'expliquer aussi l'accès aux services, aux équipements. D'un point de vue de géographe, c'est très important.
Et est-ce que, par exemple, au niveau de la contestation vis-à-vis de Bouteflika, est-ce qu'il y a eu une zone en particulier où cette contestation a démarré, ou est-ce que globalement ça a été suivi partout au même moment, ou est-ce qu'il y a des zones qui sont un peu en retrait dans cette contestation? Est-ce qu'on observe ça?
Ce qui est intéressant, c'est que cette contestation est un facteur, mais je ne sais pas si on peut dire illustre aussi, mais en tout cas c'est un facteur qui a permis de regrouper et de renforcer le sentiment d'unité nationale entre les Algériens, parce qu'on a vu des gens manifester partout, dans toutes les villes, dans toutes les régions. Quand on parle de, même si administrativement ça n'existe pas, mais quand on parle de la région de Kabylie, ou quand on parle de la région des Aurès, quand on parle de la région du Mzab, Gardaïa,
avec des cultures qui sont très différentes
et des langues parfois parlées qui sont différentes, il y a eu la même demande, et ça c'est très intéressant à voir, parce que par exemple à Gardaïa, on a eu parfois quelques problèmes entre Mozabites et personnes qui parlaient arabe. On a eu les différentes communautés qui manifestaient ensemble. Et donc on a eu tous les territoires qui sont concernés. Finalement, qu'on habite en plein centre d'Alger, où on a le métro qui passe juste à côté, mais bon, qui dessert pas encore grand-chose, il n'y a qu'une ligne. Mais et quand on habite au fin fond du désert, à l'est ou à l'ouest du pays, en région montagneuse, etc., la demande, c'est la même. La demande, c'est le départ du système, parce qu'en réalité, peu importe le milieu urbain ou rural dans lequel on habite, au fait, on sent que l'Algérie a besoin de démarrer, parce que c'est ça le sentiment. Le sentiment, c'est de stagner. Quand on parle aux Algériens, on nous répond, on a le sentiment qu'on n'avance pas. On a le sentiment qu'il y a des choses qui bougent dans le monde et qu'on est à la marge du monde et qu'on voudrait être au centre du monde, parce que l'Algérie devrait occuper une position centrale, ne serait-ce que pour sa région nord-africaine, la région sahélienne. On est d'accord qu'il y a des choses qui se passent là-bas, qui ne sont pas tout le temps heureuses. Et puis la région méditerranée aussi, en tout cas la Méditerranée de l'Ouest. Donc je pense que les Algériens ont envie de s'intégrer dans ce processus-là, de jouer un rôle dans l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire contemporaine.
Alors juste très très rapidement, une dernière question, je suis désolé parce que là on est déjà très limite dans le temps, vas-y Arnaud.
Moi je voulais juste savoir, est-ce que finalement cette révolution, enfin, ou les aspirations, enfin, ce que demandent les gens, enfin, le peuple algérien, n'est pas peut-être aussi à rapprocher un petit peu de ce que peuvent demander les gilets jaunes en France? Est-ce que finalement ce ne serait pas un problème du système, enfin, de la démocratie, qui serait carrément pas seulement propre à l'Algérie, mais finalement propre à toutes les démocraties ou à tous les systèmes
Je pense que ce sont deux mouvements distincts. On ne peut pas les comparer directement, parce que la demande, il y a des ressemblances, mais n'est pas forcément la même. Ce qui est demandé en Algérie, en réalité, c'est un changement total et global du système qui est mis en place. C'est la mise en place d'une nouvelle république, qu'on peut peut-être aussi trouver dans le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, un petit peu. Enfin,
exactement. Mais la question...
C'est plus clair, peut-être.
Et je suis... Ah, pardon ?
C'est peut-être plus clair en Algérie, la revendication politique de constituante.
Je pense que même en France aussi, quand on suit le mouvement des Gilets jaunes, il y a quand même des demandes qui sont assez claires par rapport à la fiscalité, etc.
C'est peut-être l'ampleur du mouvement qui est différente.
Oui, aussi.
Ça aussi, oui, certainement. Mais je pense que ce qui est demandé aussi, c'est comme tu l'as dit, Arnaud, c'est quelque chose d'important, c'est comment réinventer aujourd'hui le système démocratique qu'on n'arrive plus au fait à trouver un modèle aujourd'hui qui se trouve en crise en Algérie, en Afrique, en Europe, mais partout dans le monde. Et il y a un sentiment d'oppression aussi par un système néolibéral qui, ouais, en réalité, aussi, disons-le franchement, est à la source, une bonne source du problème.
Bon, je pense que c'est une bonne manière de conclure cet entretien. Donc, j'avais encore plein d'autres questions en réserve. Je pense qu'Arnaud et Jules aussi. On a pas mal débordé sur le temps. Donc, on va sauter la chanson qui était prévue et on va passer directement à l'agenda de Quentin.
Merci,
pour le mois d'avril.
L'agenda du doctorant. C'est la Gen Doc.
Alors, on va faire ça à toute vitesse.
ça va, tu peux...
Ouais, ça va, je rigole. Mais c'est normal, c'est un sujet passionnant. Alors, le quatrième épisode de la web-série Les chercheurs se mettent à nu est sorti. Je vous avais annoncé la projection en avant-première lors du dernier Agendoc. Elle a eu lieu à la Coop des Dômes, le nouveau supermarché coopératif et participatif de Clermont-Ferrand, la semaine dernière, à l'occasion de la Clermont Innovation Week. Je resitue pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, Les chercheurs se mettent à nu. C'est un nouveau concept de vidéo de culture scientifique produite par Doctovergne et AstuScience qui cherche à rendre concret non pas les contenus scientifiques mais le travail des chercheurs eux-mêmes. Chaque épisode d'une dizaine de minutes est centré sur un chercheur sujet et vous fait passer backstage pour voir la réalité du quotidien de la recherche et des hommes et des femmes qui la font. Voilà, Arnaud rigole parce qu'il était sujet du troisième épisode, mais en l'occurrence pour ce quatrième...
Où on le voit faire de la pêche, donc c'est ça.
Voilà.
Et pas se mettre à nu.
C'est le backstage de la recherche, c'est Arnaud, c'est là qu'il fait des maths. Mais en l'occurrence pour ce quatrième épisode, c'est une chercheuse, Vanessa Isseri, doctorante en géographie, qui étudie les collectifs d'agriculteurs. L'épisode est sorti aujourd'hui sur YouTube, vous pouvez donc courir aller le voir sur les chaînes de Doctovergne et d'AstuScience. Pour celles et ceux qui préfèrent une projection physique et voudraient en profiter pour discuter avec l'équipe de réalisation et Vanessa Isseri, une deuxième diffusion est organisée au Pôle 22 bis, dans les locaux de Radio Campus, impasse Bonabo, le jeudi 18 avril à 12h30. Venez nombreux, ça s'adresse à tout le monde, inutile d'être un spécialiste, au contraire. En ce qui concerne le programme de Doctovergne, nous proposons également ce mois-ci une soirée billard aux jeunes chercheurs auvergnats, le 23 avril au Snook & Pool, boulevard Côte-Blatin. Pour s'inscrire, contact@doctovergne.fr. Lundi 22 avril, c'est lundi de Pâques, mais c'est aussi la journée nationale de la géologie. Et par chez nous, les doctorants du laboratoire Magma et Volcan proposent une après-midi randonnée au Puy de Sancy avec explication du système volcanique qui a donné naissance au massif. C'est gratuit, mais inscrivez-vous en envoyant un email à j-marie.prival@uca.fr. Le départ sera à 14h au Mont d'Or. Vous retrouverez toutes les infos sur écosciences-auvergne. Pour les cinéphiles, Cinéfac nous propose le mardi 30 avril une projection gratuite et en plein air du mythique Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Rendez-vous à 21h au CESO, place Vasarely. Pour plus d'infos, cinefac.o2switch.net. Niveau musique, les amateurs de rap iront probablement voir Youssoupha à la coopérative de mai ce jeudi. Et parce que j'aime les effets de contraste, je vous signale qu'il y aura également Zaz le même soir au Zénith. Oui, ça fait
Allez
un choc.
Allez voir Youssoupha.
Je sais, ça fait un choc. Zaz, je ne sais pas pourquoi, déchaîne les passions, c'est tout oui ou tout non. Quoi. C'est... Les amateurs de jazz et de blues ont toujours leur rendez-vous au caveau du Puy de la Lune, le caveau de la Michaudière, pour les apéros jazz gratuits tous les dimanches à partir de 18h30. Les afterwork les jeudis soirs et des concerts pratiquement tous les vendredis et samedis soirs. Plus original, le 25 avril, Berry Wham nous donnera un concert de Human Beatbox à la Petite Copée. Côté théâtre, on pourra retrouver la troupe d'Improvergne pour une séance d'improvisation le 17 avril au caveau de la Michaudière et la troupe d'humoristes de Là où c'est du rire, au même endroit le 24 avril. Toujours dans l'humour, Clément Cordero et Camille Cribier nous proposent au Café Théâtre Défense de Rire un spectacle original du 24 au 28 avril. Ça s'appelle L3945 ou le drôle de choix de Louis et entre parenthèses The. Nous suivrons les aventures de Louis, un déserteur juif en 1940, que sa femme Marie va aider à s'échapper en le faisant passer pour une certaine Louise. À la Comédie de Clermont, enfin, nous aurons encore demain soir une représentation du Bruit des arbres qui tombent, un spectacle de la compagnie Nathalie Béas, à mi-chemin entre théâtre et danse, qui présente des instantanés de vie d'une famille. Et pour les amateurs de danse contemporaine pure, il y aura Flux, toujours à la Comédie, le 30 avril. Un spectacle de la compagnie Contrepoint, avec 8 danseurs et danseuses, inspiré du film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion, et de l'ouvrage de Christiane Taubira, Murmure à la jeunesse. Profitez bien, c'est le printemps. En ce qui me concerne, je vais filer tout de suite avec le reste de l'équipe de l'émission au Docto Vert, qui était spécialement déplacé au deuxième mercredi ce mois-ci, et toujours au Gavroche.
Merci Quentin pour cet injodoc très complet. Donc, une fois n'est pas coutume, bien, tu n'as pas le temps de passer ta chanson.
Je vais démissionner, Olivier, je vais démissionner.
Ça fait 3 mois, le pauvre, qu'il essaye de caser sa chanson à la fin, mais non, on n'a pas le temps. Donc voilà, c'est effectivement déjà la fin de l'émission. Merci aux chroniqueurs. Merci à toi, Rafik, pour cette passionnante interview, entre guillemets, puisque je n'ai pas vraiment interviewé pour le coup.
Merci à toi pour l'invitation.
Merci à Quentin pour la technique qui était parfaite. Si vous voulez réécouter l'émission et que ça vous a donné envie d'écouter les émissions des saisons précédentes, vous pouvez le faire en podcast disponible sur le site internet de Radio Campus ou sur le site de l'association Doctovergne, www.doctovergne.fr, site sur lequel vous pourrez retrouver aussi tous les autres projets qui sont organisés par l'association dont les chercheurs se mettent à nu, dont on a parlé tout à l'heure. Et pour ma part, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous donne rendez-vous le mercredi 8 mai. Alors, c'est férié, on ne sera pas du coup en direct, hein, puisque les doctorants prennent aussi parfois des vacances, ça leur arrive. Mais on aura enregistré l'émission à l'avance, donc ça sera bien le mercredi 8 mai à 19h pour le nouvel épisode de Quoi de neuf doc.
Vous venez d'écouter Quoi de neuf doc, l'émission de Doctovergne.